pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Passez un très bon moment sur Art District. Jazz interview en reportage au festival Jazz à Junès. Avec Julie au micro. Du 18 au 22 juillet, Jazz à Junès a fêté ses 30 ans cette année sous les pins et au son des cigales. Ce village du Gard, niché entre Nîmes et Montpellier, vit au rythme du jazz, puisque même ses rues ont été renommées avec le nom de musiciennes et musiciens de jazz qui sont passés sur la scène en plein air du festival. Dans un site extraordinaire, la musique y résonne et illumine les carrières dites du bon temps, qui ont comme un air de ruine antique. La poésie opère, soirée magique donc, son et lumière, pour cette édition un peu particulière qui a aussi mis en avant l'armée de bénévoles qui œuvre chaque année à la réussite de l'événement. Le premier soir, le public a pu s'évader au son raffiné de la trompette de Paolo Fresu, qui présentait Ferlinghetti, son dernier projet en quartet. Le deuxième soir, place aux femmes avec la batteuse Anne Passeo et la chanteuse Sandra Nkake, qui présentait son nouvel album Scars. Le jeudi, c'est l'accordéon revisité qui nous a épatés, d'abord avec le trio du jeune Noé Claire, accompagné par Clément Daldosso à la contrebasse et Élie Martin-Charrière à la batterie. Lauréat du concours Jazz Migration, Noé Claire se produisait sur la scène des talents émergents à 18h en entrée libre sur la place du village et nous l'y avons rencontré juste après son concert.
Bah, tout d'abord, on était très très heureux d'être là. Donc, c'est la première fois, comme tu disais, qu'on vient au festival. Donc, on était heureux de partager notre musique avec tout ce beau monde. Et oui, le Blues des cigales, en fait, c'est le tout premier morceau que j'ai composé il y a très longtemps, quand j'étais encore étudiant.
Pourquoi les cigales?
Parce que j'ai grandi en fait dans un village. Dans le sud-ouest, près de Carcassonne, qui est en fait entre la limite, sur une montagne, à la limite entre le climat continental et méditerranéen. Et donc il y avait toujours un passage où on passait du bruit des cigales au son silencieux.
Oui.
Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri toute mon enfance.
Tu as été quand même bercé au son des cigales.
Voilà.
Et alors le son de l'accordéon, il vient d'où? Parce que donc tu es accordéoniste.
Alors moi l'accordéon, c'est une double histoire en fait. Ça vient à la fois de ma mère et de mon père. Ma mère est d'origine arménienne. Donc quand j'ai grandi, j'étais bercé un peu avec la musique arménienne, la musique des Balkans. C'est quelque chose qui était présent dans mon entourage. Et du côté de mon père était musicien amateur et son père, lui, a été saxophoniste de bal pendant longtemps. Et donc, c'est quelque chose aussi qui m'a nourri. Voilà, l'aspect en fait populaire et riche de l'accordéon, riche de plein de couleurs différentes. Voilà.
Alors c'est vrai que l'accordéon, c'est pas le plus fréquent hein, des instruments dans le jazz, mais il y a quand même, par exemple, là ce soir, le même soir que toi à Junès, il y a aussi Vincent Perani hein, qui va jouer sur la scène de Junès. Il y a un renouveau de l'accordéon, t'as l'impression, dans le jazz un petit peu?
Absolument, oui. En fait, c'était un instrument qui a été longtemps... abandonné. En fait, il y a eu une grande période des années 30 aux années 50. Il y avait toute cette période avec les Joe Privat, Tony Murena. Donc, pas mal d'accordéonistes, en fait, qui jouait beaucoup avec Django Reinhardt, donc qui mélangeait la valse musette avec le jazz manouche. Mais après ça, il y a eu vraiment un creux avec une très mauvaise image de l'accordéon, quelque chose de désuet, une image un peu péjorative. Et donc il y a des musiciens qui ont à nouveau réouvert la porte. Dont en France Richard Galliano, puis après Vincent Perani, pour citer les personnes les plus connues.
Ils t'ont inspiré.
Absolument. Ouais. Et il y en a plein d'autres d'ailleurs qu'on pourrait citer. Il y a aussi la musique classique qui s'est développée à la fois dans les conservatoires, mais il y a de plus en plus d'artistes. Là, on a par exemple Théo Hould, qui est le premier accordéoniste qui a remporté les victoires de la musique classique à l'accordéon. Donc c'est un instrument petit à petit qui revient dans l'imaginaire des gens.
Alors c'est vrai qu'ici, la jeunesse, le concert était superbe et très délicat, en même temps très moderne. On n'était pas du tout justement dans le bal musette. Hein. Tu revisites tout ça. Comment tu fais en fait? Comment tu composes? C'est très aussi... c'est assez intime en fait ton accordéon.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, Secret Place.
Secret Place, c'est ça, c'est une invitation
à aller
dans un endroit secret, à se réunir l'espace d'un concert dans un endroit secret.
Le titre de ton premier album.
C'est ça.
Qui a reçu pas mal de jolis commentaires dans la presse. Pas mal aussi de prix, des révélations Jazz Magazine par exemple. Je crois qu'il y a eu aussi le festival à Saint-Germain-des-Prés, vous avez été lauréat.
Oui, absolument.
C'est ça, donc il y a une belle histoire avec ce premier album. Hein.
Oui, en fait, ce premier album, justement, suite à ce concours Jazz à Saint-Germain-des-Prés, on a pu l'enregistrer, a été produit par ce festival-là. Et on a eu la chance d'avoir justement Vincent Perani qui est là ce soir avec nous pour faire la direction artistique. Il y a eu Vincent Segal, le violoncelliste, qui est venu jouer sur un titre. Un joueur de oud avec qui j'avais beaucoup collaboré, Habib Chehadehana, qui est venu enregistrer aussi.
Et alors ici à Junas, ils ont ce programme aussi en partenariat avec Jazz Migration.
Absolument.
Puisque vous êtes aussi le trio donc, qui est lauréat de Jazz Migration. Cette scène en fait, un peu off du festival, c'était à 18h, gratuite pour le public de Junas. Comment tu t'es sentie sur cette scène?
Très bien, vraiment à ma place.
Ouais, avec les cigales justement.
Oui, et puis un côté simple, sans... sans trop de code, j'ai senti que le public réagissait vraiment spontanément, justement.
Tu travailles déjà sur un deuxième album ?
Oui, en fait, pour tout dire, il est déjà enregistré et il sortira au printemps 2024.
Ah ben, on va suivre ça alors. Merci beaucoup Noé Claire. Donc Secret Place, hein, on peut se le procurer aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Ou venir te voir en concert, parce que je crois que voilà, t'as pas mal de dates aussi en 2023, hein, ça marche bien.
Oui, c'est une belle, belle tournée.
Merci à toi.
Merci, merci beaucoup.
Si Vincent Perani est l'un des parrains du jeune Noé, il se produisait justement le même jour pour le concert de clôture, après le jazz traditionnel du batteur Daniel Humer. Sur ce dernier, référence incontournable de la scène jazz française, notons qu'il connaît bien Junas puisqu'il est l'auteur des vitraux qui ornent le temple du village. Musicien de jazz et artiste peintre donc aussi. Après ses standards fougueux et un brin malicieux, l'accordéon de Vincent Perani nous a totalement subjugués, accompagné à merveille par Ziv Ravitz à la batterie et Federico Casagrande à la guitare. Un moment rare de jazz, s'envolant en fusion dans des rythmes cinétiques et électro d'une rare poésie. Le projet s'appelle Jokers et il faut l'écouter absolument. Le vendredi soir était scandinave avec le contrebassiste suédois Lars Danielsson et son projet Libretto. parfaitement magnifique, droit et sérieux sur la scène, c'était aussi le piano de Grégory Privat qu'il fallait écouter, qui se levait en maître incontesté de la scène, avec à ses côtés la batterie de Magnus Ostrom, qui nous a livré un extraordinaire solo. À sa suite, le jazz électro du trompettiste norvégien Nils Peter Molvær revenait à Junas après s'y être produit 25 ans plus tôt. Moment de tension et de grâce pour cette trompette lancinante dans le meilleur sens du terme. Un véritable événement puisqu'il s'agissait d'un hommage à l'histoire du festival qui se tissait aussi ce même jour sur la scène des talents émergents avec le groupe du jeune contrebassiste Basile Raola, natif du village, comme nous l'explique l'un des cofondateurs du festival, Fabrice Manuel.
Alors là, nous sommes place de l'avenir, en plein cœur du village, face à la mairie, face au temple, un endroit où on accueille beaucoup de concerts à 18h, parce que le festival de Junas, c'est des concerts dans les magnifiques carrières, mais c'est aussi beaucoup de concerts dans le village.
Et là, c'est plutôt dédié à la scène émergente, je crois, parce que justement, Junas, le festival, a vocation aussi à promouvoir les jeunes artistes.
Oui, exactement. Donc là, on a un quartet d'un jeune musicien qui a une très belle histoire avec Junas, puisqu'en fait, il est né à Junas. Il a vécu à Junas jusqu'à l'âge de 14-15 ans et il a été à tous les festivals durant toute sa jeunesse. Et de façon assez étonnante, il a décidé de faire carrière dans le jazz. Et je l'ai retrouvé il y a quelques années, j'ai suivi sa carrière et c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et on est très très fiers de l'avoir pour ses 30 ans et de marquer voilà, cette union entre nous et cette histoire qui est plus forte que tout et qui envoie des enfants à une scène de jazz.
Oui, parce que tu parlais de tous ces festivals que ce jeune musicien donc, a fréquenté. Donc c'est les 30 ans du festival de Junas. Et on est aussi à côté d'un endroit où il y a une petite exposition, je crois, qui retrace un peu cette histoire.
Oui, 30 ans de festival, c'est surtout 30 ans d'amitié, 30 ans de travail collectif. On est une centaine de bénévoles à Jazz à Junas. Et dans ces centaines de bénévoles, même s'il y a des historiques, on va dire, des gens qui sont là depuis des années, j'en fais partie, j'ai créé ce festival. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui ont donné de leur temps, donné de leur énergie, donné de leur passion, de leur intelligence pour ce festival. Et l'association et des bénévoles ont décidé de rendre hommage à d'autres bénévoles, à toute cette histoire. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais oublier que les plus belles choses, elles ne se font pas avec de l'argent, elles se font avec du cœur.
Alors c'est quand même, j'imagine, beaucoup de partenariats, beaucoup de liens qui s'est tissé dans le département et dans la région. Est-ce que tu as l'impression que justement depuis le début et aujourd'hui, le jazz, voilà, ça amène plus de public aujourd'hui. Comment ça se passe?
Alors, on a un gros soutien des collectivités publiques, le ministère de la Culture, la région, le département, la communauté de communes et la ville qui sont derrière nous et qui sont derrière nous, mais pas que sur des subventions, mais aussi sur de la communication, sur de l'engagement, ce qui fait qu'on a un public de proximité. On a un public qui est à 80% gardois ou héroletais. Donc ce public-là est un public qui aime Junas, qui est un public fidèle, qui a une vraie relation avec un petit village, puisque Junas c'est 1100 habitants, donc c'est loin des centres de Montpellier ou de Nîmes, à 30 km de part et d'autre, et je crois que c'est une vraie démarche d'aller à Junas. Et donc on vient chercher à Junas quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ce public, c'est un public qui se renouvelle sans cesse, qui se renouvelle par les choix de programmation. Il est évident que quand on fait Sandra Nkake, on a un public beaucoup plus jeune. Ce soir, avec Nils Peter Molvær sur la musique électronique, on va aussi être sur un public différent. Et puis, on a des gens qui, aujourd'hui, décident, plus d'une centaine de personnes, qui décident de passer les 5 jours de festival et de vivre l'ambiance du village jazz avec tout ce qui se fait, les concerts à 18h dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi les expositions, aussi des choses impromptues comme on a eu cette année avec Arnaud Métivier et Otto Lechner. Et ce public, on a une vraie relation d'affection.
Peut-être un souvenir, quelque chose d'un peu particulier pour vous durant ces 30 ans?
Je crois que pour moi, comme pour la plupart des membres de l'association, il y a eu un moment très très fort, c'est pour les 20 ans, Arnaud Métivier, un de nos artistes fétiches, qui sur un ballon a survolé les carrières en jouant de l'accordéon, les 5 soirs du festival des 20 ans. Je crois que quand la musique devient poésie, quand la musique devient passion, quand la musique devient un phénomène d'émerveillement, je crois qu'on est les plus heureux en tant qu'organisateur, parce qu'il n'y a pas plus beau que les pétillements des yeux des spectateurs qui sont dans nos festivals. Comme je vous le racontais, moi, j'ai créé Jazz à Junas à l'époque avec une association qui s'appelait Les Copains d'abord. Les Copains d'abord avaient pour objectif de faire la fête. Toutes les fêtes, le feu de la Saint-Jean, le bal, on a recréé l'équipe de foot, tout le reste. Il y avait à l'époque un très très bon restaurant catalan, qui était un restaurant très chic, à Junas. Et donc à chaque fois, j'allais le voir pour lui demander un peu d'argent pour nous aider, et il ne me donnait jamais d'argent. Et en 94, je vais le voir, il me dit, je veux pas d'argent, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, je vous donne pas d'argent, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez Tété Montolio. C'était resté derrière l'oreille, et en 95, je vais voir ce monsieur, et je lui dis, bah, écoutez, voilà, ça y est, j'ai Tété Montolio, il faut que vous soyez partenaire. Ce monsieur est devenu partenaire du festival, il nous a accueillis, il a eu un enfant, qui s'appelle Basile Raola, qui jouera là tout de suite. Et en 95, le festival est tout petit. On a fait l'année avant, on a fait Petra Zmijauskas, Mescal et Stéphane Kochoyan. On ne peut pas dire qu'on méritait un passage national. 95, on ouvre Télérama et on a un article magnifique dans Télérama. On est sélectionné dans les quelques festivals de France en disant que les carrières de Junas sont un des plus beaux lieux de France. Signé Michel Conta. Donc moi, pour moi, Michel Conta, c'était un grand journaliste. Mais alors, impossible, il n'avait jamais reçu, a priori il n'avait pas reçu de dossier de presse parce qu'on n'était pas bon, on ne savait pas, et rien du tout se fait. Quelques années après, une discussion avec Paolo Fresu, dont on a ce lien, nous explique le lien de Michel Conta, secrétaire de Jean-Paul Sartre. Alors là, je me dis, ça c'est quelque chose d'incroyable. Et quelques années encore après, j'écoute France Culture et j'entends les entretiens de Jean-Paul Sartre à France Culture, les 9 ou 10 heures d'entretien de Jean-Paul Sartre à France Culture, et on entend tous les battements de l'horloge et tous les sons de l'horloge. Et là, j'achète ce coffret, je l'offre au maire du village de l'époque, Jean-Paul Loz, et je vois qui réalise les enregistrements de Jean-Paul Sartre à Junas, Michel Conta. Et je comprends quel est le lien de Michel Conta à Junas. Et Michel Conta, sans jamais avoir mis les pieds à Junas, sans jamais, a toujours eu et a eu un de ses gestes incroyables de soutenir le festival alors qu'on n'était rien et juste par tendresse. Il fait la même chose que quelqu'un comme Charles Aznavour, qui l'année de l'Arménie, je lui fais une longue lettre pour qu'il nous soutienne. Son secrétaire particulier m'appelle, il me dit non, Charles Aznavour ne soutiendra absolument pas le festival. Et M. Aznavour n'a pas le temps de venir au festival. Bon, ben, j'avais pris une claque, c'était la vie, j'en ai pris d'autres. Et puis, arrive un mois ou deux mois avant le festival, on a une magnifique subvention de la SACEM nationale qu'on n'avait jamais eue. Je me dis, je suis super bon, j'avais super défendu le dossier. Très bien. 3, 4, 5 ans après, dans le cadre de mes fonctions, je discute avec Olivier Bernard, le patron du service culturel. Je dis Fabrice, Jazz à Junas, il me dit, Jazz à Junas, je vais vous raconter, un jour, j'ai reçu un coup de fil direct de Charles Aznavour qui m'a téléphoné pour dire qu'il fallait absolument qu'on vous aide et qu'il fallait qu'on vous soutienne. Et le gars, il m'a dit non. Et voilà. Donc, c'est des. Voilà, ce que Michel Conta, Charles Aznavour, la classe.
Basile Raola nous a dit aussi quelques mots au micro juste après son concert.
Mon émotion ici, bah, c'est incroyable. J'ai pas pu trop en parler au début du concert, j'avais trop d'émotions. Il y a mes parents qui sont là, mon frère avec ses enfants, les amis de mes parents qui m'ont vu grandir et Junas qui m'a vu grandir aussi en tant qu'adepte du festival de jazz. J'y allais chaque année depuis que j'ai 3-4 ans, au début avec mes parents puis après de manière autonome. J'ai commencé la basse électrique quand j'avais 7 ans et je suis venu un jour, je ne sais plus quelle année, voir des concerts avec ma mère et elle m'a fait part de son amour de la contrebasse et à quel point elle trouvait cet instrument magnifique et elle m'a demandé si ça me dirait pas un jour d'essayer la contrebasse. Je sais plus ce que j'ai répondu, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête et ça c'est un des plus grands souvenirs que j'ai au festival de jazz, en plus de tous les magnifiques concerts que j'ai pu voir etc. Mais ça c'est un petit souvenir avec ma mère qui est toujours restée avec moi quoi.
Enfin arrive la dernière soirée, éclatant elle aussi avec le sacre du tympan de Fred Palem, dont la musique symphonique nous a emmené rêver vers les étoiles et les satellites d'Elon Musk, réécouter un des premiers morceaux de musique électronique française ou encore se prélasser au son d'une balade sensuelle. Il fallait même peut-être prendre un bain. Mais Fred Palem en parle très bien lui-même, écoutons-le.
Il y a de l'ambiance là.
Bonsoir Fred.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Alors, il fait déjà nuit, on est au cœur des carrières de Junas.
Ouais.
Et je crois que tu les connais déjà, ces carrières.
Eh bien oui, parce qu'on est venu il y a 2 ans. Et c'était un concert très important pour nous. Ça faisait longtemps qu'on voulait venir dans ce festival. C'était pas toujours évident, c'est un gros festival. Et c'était notre première il y a 2 ans. Et là, j'ai appris qu'ils voulaient nous refaire 2 ans après. Alors là, j'étais vraiment... J'étais fou de joie, quoi, parce que c'est assez rare de refaire 2 fois de suite un festival comme ça. Il y a des festivals un peu équivalents que j'ai fait il y a 20 ans, que j'ai jamais refait depuis. Vous savez, c'est...
Oui.
Donc, mais en fait, je crois qu'en fait, ils nous aiment bien, en fait. Ils aiment bien la musique qu'on fait. Et voilà, donc nous, on répond présent.
Alors, une musique avec une palette... très très large, beaucoup de couleurs,
ouais.
On s'est régalé. Moi j'avoue que j'ai eu un petit faible pour l'hommage à Elon Musk, tu peux nous en dire un petit mot? Je sais pas si c'est un hommage d'ailleurs.
Bah, en fait non, mais je voulais faire je pensais à un espèce de thème un peu sur l'espace, sur la conquête spatiale, je pensais à un truc comme ça. Et puis au moment où j'étais en train d'écrire le morceau, j'ai pas fini de l'écrire, mais il y a un pote qui m'appelle, qui me dit, tu sais, il y a les satellites d'Elon Musk qui passent dans le ciel ce soir. Je lui dis, ah bon, bah oui, tu vas aller voir de chez toi. Et on les a vus passer, on voyait les lumières. Mmh. Et je me suis dit, bah, je vais l'appeler comme ça. C'est complètement fou, cette
Alors,
histoire.
Oui, c'était très imagé, en fait. J'ai trouvé justement...
Ouais, voilà. Donc du coup, je me dis, bah, ça va être un bon titre, hein, ça va illustrer le truc. Bon, voilà.
Et tu as toujours comme ça, les idées de composition te viennent naturellement, enfin, comment ça se passe dans ton cerveau, quoi.
Alors, il y a 2 façons, hein, c'est assez simple. Il y a évidemment l'inspiration des fois qui arrive. La bonne fée qui est là, qui te dit, bon, bah vas-y, il y a un truc, tu vois, bon, bah, ça arrive à tout le monde. Donc moi, je préfère me faire surprendre par l'inspiration et je travaille, en fait. C'est-à-dire que, tout le temps, j'ai des petites idées qui me traversent l'esprit, que je note, soit sur des bouts de papier dans un carnet, soit dans mon ordinateur, soit déporté, soit avec mon dictaphone. Et au moment où je dois écrire un disque, je rassemble toutes mes idées, je fais le tri et je me mets à écrire tous les jours.
Ah oui, quand même, donc c'est une discipline.
Bah je me... Oui.
Ouais, ouais.
Oui, et en fait, j'écris tous les jours, je reprends mes idées, je fais le tri dans mes idées, je les retravaille, je les approfondis, tac, 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 et puis je finis par avoir des choses qui apparaissent fatalement. Hein.
Ouais, ouais.
En grattant, ça met plus ou moins de temps, mais plus tu grattes, plus tu trouves, plus tu cherches, plus tu trouves. Et puis des fois, il y a des coups d'inspiration qui viennent aussi, en plus, hein, des coups de paf. Par exemple, le Goodbye Lou Garrock,
ouais.
C'est un morceau que j'ai écrit pour mon père. Il me réclamait un morceau depuis des années. Et c'est difficile de faire des morceaux comme ça pour...
Sur commande,
surtout pour les gens qu'on aime. C'est assez difficile. Faut que ça vienne naturellement, sinon c'est trop compliqué. Et j'arrivais pas, je trouvais pas d'idée. Il est décédé.
Ah oui.
Et puis en janvier 2020, et je cherchais. J'avais cherché des idées avant, mais je n'avais pas trouvé. Et il est décédé, et puis j'étais en train de régler des problèmes de papier pour lui, des problèmes de papier à la con.
Bien sûr, ouais.
Et un matin, je sors de chez le syndic, de son appartement, je ne sais pas. Et j'ai un espèce de coup de blues qui me tombe sur les épaules, et j'avais l'impression que je pesais 10 fois mon poids, quoi. C'était. Et là, c'était tellement, c'était tellement dur. J'entendais une espèce de un truc de guitare, quoi, parce que lui, il jouait un peu de guitare aussi. Il aimait beaucoup le blues et tout. Et j'entendais une espèce de un truc de blues comme ça.
C'est très bluesy. Hein.
Bah, très blues, ouais. Et j'entendais un truc comme ça, et j'ai fredonné le truc. J'étais là, je me disais putain, merde. Là, j'ai vraiment un gros coup de blues. Puis je me fredonnais ça dans ma tête en rentrant à ma voiture. J'ai pris mon dictaphone, je l'ai enregistré. Et puis j'avais complètement oublié que j'avais enregistré.
Ouais.
Quelques mois après. Et puis j'ai repris mes notes. Et je suis retombé dessus. Et puis je me suis dit, ah putain, oui, je me souviens de ce moment-là. Mais ouais, cette espèce de thème de blues, il y a un truc à faire avec ça. Je me souviens pile de comment je me sentais à ce moment-là. Et je vais restituer ça, quoi. Et le morceau, je l'ai écrit très très vite.
Ouais.
Très 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 vite. C'est un des morceaux les plus rapides.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein,
ah oui,
on le sent, puis bon, tu l'expliques, mais quand même, c'est vrai que c'est un des plus beaux, je trouve, d'ailleurs, du répertoire. Enfin, je les ai tous aimés, mais pour le coup.
Moi, c'est la chose après laquelle je cours en permanence, c'est le lyrisme, l'émotion, c'est des choses qui sont très importantes pour moi en musique. C'est pour ça que j'aime la musique.
Après, j'aime aussi des musiques où il n'y a pas de lyrisme, où il n'y a pas d'émotion. Par exemple, on me compare souvent, les gens me disent « Ouais, toi, t'as écouté Zappa et tout », je dis « Bah, pff, non ».
Ah oui, alors sur le dernier morceau, le tout dernier, il y a quand même beaucoup de Zappa, là, non ?
Enfin, il y a un thème qui est construit un tout petit peu comme une mélodie de Zappa que j'avais entendue il y a longtemps, mais ça n'a rien à voir, mais c'est une espèce de clin d'œil. Zappa, il n'y a pas de sentiment dans Zappa. C'est pas grave, c'est pas un critère de jugement, c'est juste une constatation. C'est quelqu'un qui travaillait pas avec ça. Ça sortait comme ça venait, mais il cherchait pas à provoquer des émotions.
Et puis là, avec l'aspect symphonique aussi, il y a un souffle.
Oui, ah oui, bien sûr.
Qui est extraordinaire, quoi.
Ah ben oui, là, c'est avec les cordes, les cuivres, tout de suite, ça décuple.
Parce que tu es aussi chef d'orchestre un peu, hein.
Oui, à ma façon.
Depuis des années, parce que bon, un tout petit mot, mais c'est une aventure de vie, en fait, le sacre.
Ah oui, bien sûr, c'est une aventure de vie.
J'allais dire le sacre du printemps.
Mais... Oui, mais tout le monde fait l'erreur, hein, c'est
voilà,
pas grave.
Le sacre du tympan, évidemment, fallait que je le fasse.
C'est pas grave. Non, mais c'est une aventure de vie, mais l'orchestre, il change suivant les albums, suivant les émotions, tout ça, c'est voilà, des fois il y a des musiciens qui ont envie de partir faire autre chose. Moi des fois j'ai envie de jouer avec d'autres musiciens, donc je fais varier en fait.
Oui, ce qui est important je pense d'ailleurs.
Ah c'est capital, j'ai changé le line-up de l'orchestre à partir de l'Odyssée là, et je le regrette pas. Et je suis hyper content de cette section de cordes, les musiciennes sont incroyables. Après, je sais qu'il va falloir que je m'en sépare un moment pour monter autre chose.
Ouais, c'est-à-dire que là, c'était le 10e album, hein, qui s'appelle le numéro 10, hein, d'ailleurs, voilà. Ou X, comme tu disais.
Bah, X, ouais, enfin, voilà, mais.
Chiffre romain.
Mais quand tu vas t'acheter un iPhone 10, tu dis pas un iPhone X.
Non, c'est ça.
Bon, alors, voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde me dit X.
Donc, le 11 est en préparation ou...
Le 11 est en préparation dans ma tête.
Ouais, d'accord. Donc, ça mûrit.
C'est en train de mûrir.
Super.
C'est en train de mûrir. Et tant qu'il y a ce répertoire-là qui tourne, c'est très difficile de commencer à écrire d'autres choses. Ouais. Parce que j'ai encore ces morceaux-là en tête, moi. Donc du coup, bah, voilà, je peux pas...
Oui, il faut encore les jouer.
Et oui. Les morceaux,
encore qu'ils aient une vie, quoi.
Exactement, tu as tout à fait compris. Les morceaux, ils ont une vie. Ils ont une vie au sein de l'orchestre.
Bon, bah merci beaucoup, Fred.
Merci à toi.
On entend beaucoup de musique derrière nous, mais c'est normal, hein, on est plein dans le festival.
Ouais.
Donc on va aller écouter Koutou, hein, c'est ça ?
Koutou, carrément, le groupe de Théo Tsekaldi.
Ouais, que tu connais un petit peu.
Ah bah oui, je connais bien. Bien sûr. Il est venu jouer sur l'album qui s'appelait L'Odyssée.
Ah super, merci beaucoup Fred.
Merci à toi.
Et à bientôt.
À bientôt.
En clôture de ses 30 ans de festival, le violoniste Théo Tsekaldi nous a surpris avec son nouveau projet Koutou, qui rend hommage au chant éthiopien et qui trace le sillon d'une musique plus accessible et populaire, très festival en un mot, par rapport à celle plus sophistiquée à laquelle il nous avait habitués. Théo Tsekaldi.
Bonsoir, déjà je suis très heureux de venir pour la première fois à Junas. C'est un festival dont évidemment j'ai entendu beaucoup parler. Il y a eu des grandes soirées ici, le cadre est magnifique. Et du coup de faire cette clôture de festival, comme le disait, me le racontait en fait le directeur tout à l'heure, on est un peu le groupe coquetterie. Il m'a dit ça comme ça, parce que ils ont choisi pour cette 30e édition d'inviter des groupes qui avaient des histoires particulières avec le festival, et nous on est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'on c'est un projet avec une chanteuse éthiopienne qui n'a rien à voir avec le festival de près ou de loin, et c'est un peu la découverte pour eux du festival. Aussi un moment festif pour célébrer la clôture de Junas ce soir. Donc on est prêt à danser, à faire la fête avec Koutou, donc, qui est ce projet franco-éthiopien qui existe depuis 2021 et qui s'est formé après un voyage que j'ai fait à Addis Abeba où j'ai rencontré énormément de musiciens et de chanteurs et d'artistes et de chanteuses et de poètes. J'ai rencontré notamment deux chanteuses avec qui il y a eu un feeling très spécial et une envie d'aller vers les musiques de l'un et de l'autre. Et du coup, on a commencé à travailler sur ce projet. C'est un mix entre musique éthiopienne, musique azmari, donc la musique traditionnelle éthiopienne, dans les voix, la manière dont c'est chanté, le jazz bien sûr, mais aussi l'électro. Il y a beaucoup d'influences différentes. Et c'est quelque chose de très énergique sur scène, où on a vraiment envie de qu'on rentre dans une communion collective d'énergie, de joie, de danse, de transe.
Mmh. Et Kutu, ça veut dire quoi, du coup?
Kutu, en fait, c'est un mot amharique, donc la langue nationale éthiopienne, qui veut dire agressif, mais dans un bon sens, quoi. Comme un espèce de cri de révolte, mais quelque chose de juste. Mmh. Voilà.
Ok, et est-ce que du coup, cette découverte, enfin, cette ouverture musicale t'a amené à penser ton violon un peu différemment?
Ouais, carrément, parce que ça m'a déjà décentré d'un rôle purement soliste, et j'ai appris à être aussi en accompagnement, donc j'utilise beaucoup les pids. Je joue pas mal le violon comme à la manière d'une guitare. Mmh. J'utilise aussi quelques effets donc, qui apportent cette touche un peu plus électrique. J'ai essayé de m'inspirer aussi du violon traditionnel éthiopien qui s'appelle le masenko, mmh, qui est un violon à une corde qui se joue principalement en harmonique et qui est très entêtant comme ça, hypnotique. Et je m'en suis inspiré un peu pour construire mes parties, mes riffs. Chaque projet que je monte ou dans lequel je m'investis, j'essaye de justement d'oublier un peu ce que je connais, ce que je crois connaître, et de prendre des risques et d'aller vers des musiques que je connais pas, et du coup de me placer dans cette musique d'une nouvelle façon à chaque fois.
Le public de Junas, en transe, comme les musiciens sautant sur la scène, en a donc profité pour danser. Le festival Jazz à Junas reviendra pour sa 31e édition l'an prochain. C'était Julie au micro pour vous faire vivre cette 30e édition anniversaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour toutes les actualités de jazz qui arrivent. Très bel été à vous tous.